Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1, au service de l'entrepreneuriat, au service des initiatives positives, des solutions et bien sûr des pépites françaises. Ce soir, une coopérative qui propose des tomates et des fraises. C'est une coopérative qui signifie « lever de soleil » en breton. Son nom, c'est Savéol. Cette coopérative qui a fait renaître la fraise Plougastel grâce à une technique novatrice de culture. Les tomates, cœur de pigeon, c'est aussi cette même coopérative. Alors, ce soir, on va se demander comment on mange mieux, sainement et sans se ruiner. Les réponses avec Pierre-Yves Gestin, président de Savéol. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France bouge. On est ravis de vous recevoir. Autour de la table, bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
Ça va, vous avez passé un bon week-end?
Excellent, et vous?
Très bien, en famille, très agréable. Ce soir, on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté de la France bouge. Clara, de qui s'agit-il?
On passera tout à l'heure un coup de fil à Paul Malfoy. Il était venu dans la France bouge en septembre 2022. Il nous avait présenté ProTem. C'est une technologie d'enrobage écologique.
Ah oui, la fine pellicule.
Exactement.
Qui entoure les fruits pour les protéger.
Exactement, pour les empêcher, entre autres, de pourrir ou de moisir.
C'est vachement bien ça. Il a évolué?
Bien sûr.
Allez, rendez-vous à 20h50. Dans cette France bouge, une start-up des micro-fermes verticales dans lesquelles les consommateurs, vous, moi, on peut récolter directement les aromates cultivés en aquaponie. Bonsoir Jérémy Delbar.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans la France bouge, cofondateur de Tomogro, c'est le nom de votre start-up. Allez-vous convaincre le patron et le coach de ce soir? Ce soir, le coach, c'est Jérôme Giacomoni. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien?
Très bien.
Ravi de vous retrouver pour démarrer la semaine avec vous. Vous êtes le cofondateur du groupe Aérophile. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que ça vous plaît cette thématique de la culture?
Dès qu'on touche à la nature et dès qu'on rapproche la nature des hommes, évidemment, on ne peut être que sensible.
Et ça vous a plu, Tomogro, alors?
Ah, j'ai trouvé ça très beau, j'ai vu la vidéo, c'est très impressionnant ce qu'ils font.
Vous allez rentrer dans le détail et tout nous raconter. Allez, la France bouge sur Europe 1, c'est parti. Aux manettes de l'émission, c'est Christophe Pierrot, c'est l'émission des audacieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h.
La France bouge. Il fait tourner la boîte.
Et ce soir, c'est une entreprise qui protège les cultures. Hein. Tout est fait à la main, paraît-il. Une coopérative centrée sur les tomates et les fraises. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, hein, on en parle notamment depuis la crise Covid. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est manger sainement, c'est la création d'emplois ici en France. Et c'est aussi avoir confiance dans nos agriculteurs, dans nos maraîchers. Alors, on va en parler ce soir avec le patron de cette coopérative. Cette coopérative, c'est Savéol. Avec vous, Pierre-Yves Gestin. Vous êtes producteur et maraîcher.
Oui, tout à fait.
Je ne
me
suis pas trompée. Oui. De cette coopérative familiale, on peut dire comme ça, parce que Savéol, ça a été créé par vos parents.
Oui, ça a été créé par mes parents à l'époque. Ça date du début des années 60.
Eh bien, vous allez tout nous dire. Est-ce que vous savez qu'au début, il y a un pitch dans l'émission?
Oui, on m'a dit qu'il y avait un pitch.
On va vous écouter. Et après, on va entrer dans le détail avec vous. Vous avez une minute. Savéol, c'est quoi?
Eh bien, je vous remercie. Donc, écoutez, Savéol, c'est une coopérative qui est basée dans l'ouest de la France, sur le département du Finistère, avec quelques producteurs morbihanais. C'est là où cultivent les tomates sans pesticides, mais également l'excellente et délicieuse fraise Garriguette. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre coopérative? C'est qu'il y a un peu plus de 50 ans, nos prédécesseurs ont imaginé protéger leur culture avec une toiture vis-à-vis des aléas, et donc en y construisant des serres pour y produire les légumes. Il y a un peu plus de 25 ans maintenant, ça a été la renaissance de la fameuse fraise Garriguette qui a posé les pieds sur le territoire européen et notamment en France grâce à Amédée Fraisier il y a un peu plus de 300 ans. Et au travers de toute cette histoire que nous vivons en permanence depuis toutes ces années, on a rajouté évidemment à nos compétences et à notre savoir-faire l'utilisation d'insectes qui sont aujourd'hui capables de protéger nos plantes vis-à-vis des agressions d'agresseurs naturels tels que les mouches blanches, les pucerons, mais également aussi pour faire des fruits et des fraises de qualité, d'utiliser des bourdons et des pollinisateurs qui sont capables aujourd'hui de faire un excellent travail pour apporter des fruits avec énormément d'arômes et de goût pour le plus grand plaisir, on va dire, des consommateurs. Et tout ça, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une coopérative qui emploie énormément de personnes. Là, nous, en quelques semaines, quand le printemps va vraiment se développer avec les beaux jours qui rallongent, on aura pratiquement 3000 personnes qui vont travailler sur l'ensemble des 100 entreprises que compose notre belle coopérative. Donc, plein d'histoires à imaginer année après année. Et puis toujours regarder ce lever de soleil qu'est Savéol, en regardant toujours à l'ouest pour s'inspirer, avoir des idées. nos consommateurs.
Je vous ai laissé un peu plus de la minute. Je crois que c'est même 1 minute 35, 45, hein, me dit Christophe Pierrot.
J'étais bavard.
Vous avez été bavard, mais c'était passionnant. Donc, on vous laisse en parler. Hein,
c'est parce pas que facile de résumer.
Mais non, mais c'est tout un univers qu'on ne connaît pas forcément. Saveol, en plus, on sait ce que c'est. Si vous allez faire vos courses dans les supermarchés, vous savez, c'est ces barquettes avec dedans les tomates cœur de pigeon. Hein, c'est ça, elle s'appelle comme ça, qu'on peut déguster à l'apéro. C'est vous, c'est Saveol.
Oui, ça a été créé au début des années 90, ces petites variétés de tomates cerises.
Il faut les rincer à chaque fois, je me pose la question.
Non, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, les tomates ne sont jamais en contact avec de la terre ou autre chose. Elles sont récoltées à la main, bien entendu. Elles sont mises dans des conditionnements, des petites barquettes, comme vous avez vu, dans les commerces. Mmh. Puis voilà, on peut les croquer directement sur les plantes. C'est ce que je fais chez moi, d'ailleurs.
Oui, mais en plus, elles
on n'a jamais nos tomates.
Et alors, c'est important ce que vous nous dites, Pierre-Yves Gestin, président de Saveol, parce que vous les avez dit, tout est fait à la main. Et c'est ça aussi qui est important. Il y a le fait que tout est arraché à la main, je ne sais pas comment on le dit,
récolté
à la main. Ouais. Mais aussi, vous l'avez dit pendant votre pitch, c'est que vous êtes une coopérative qui n'utilise quasiment plus de produits phytosanitaires.
Non, parce que en fait, dans les années 80, les producteurs se sont dit que l'utilisation des produits phytosanitaires n'était pas la solution pérenne pour l'activité de la production sous serre. Et au travers d'un voyage d'études qui a été fait dans les îles anglo-normandes, ils sont revenus avec l'idée de pouvoir élever une micro-guêpe qui était capable en fait, de parasiter la mouche blanche. Alors, je pourrais vous rentrer dans les détails.
Non, mais on veut connaître. C'est quoi cette histoire de mouche blanche?
Alors,
c'est pas la mouche qui
blanche,
se balade dans la maison
la
quand
blanche,
il va pleuvoir.
C'est la mouche blanche que vous avez trouvée dans votre potager quand vous cultivez des légumes
d'accord.
et qui peut dévaster vos plantes, hein, tout simplement. Ou des rosiers. C'est un peu moins grave parce que
les
roses, oui, elle est vraiment blanche.
D'accord.
Et donc, au travers de cette visite, ils se sont rendus compte que là-bas, ils étaient capables d'élever cette petite guêpe, qui est extrêmement minuscule, elle fait à peine un millimètre. Et son seul moyen de subsistance à cette petite guêpe, c'est de venir parasiter, donc pondre la femelle de cette micro-guêpe qui s'appelle Ancarcia, vient pondre son œuf dans l'œuf de la mouche blanche. Et donc casse le cycle de vie de la mouche blanche.
Mmh.
Ce qui fait que quand on a mis plein d'Ancarcia femelles dans la serre de tomates, eh bien elles vont aller chercher ces petites larves de mouche blanche qu'elles vont aller parasiter. Donc on détruit le cycle de vie de l'insecte.
Jérôme Giacomoni, je vous vois écouter Pierre-Yves avec énormément d'attention et de concentration.
J'adore ce que j'adore les papillons. Donc je me suis passionné pour les lépidoptères, c'est le nom des papillons. Et c'est vrai que tout ce qui est parasite, il y a des choses incroyables. Il y a des insectes qui pondent carrément dans le cerveau et qui guident l'insecte pour se suicider dans l'eau. Il y a des choses vraiment incroyables dans la nature.
Ah, c'est incroyable.
Et je trouve que c'est extraordinaire, effectivement, d'utiliser les prédateurs pour éviter les insecticides.
C'est-à-dire que vous répondez la nature avec la nature.
Bah complètement.
En fait,
c'est l'observation de la nature. Vous avez raison. On observe la façon dont fonctionne la nature et on ne fait simplement que la mettre en œuvre au service de nos cultures.
Hein, donc, grâce à cela, vous utilisez donc les insectes pour pour pouvoir avoir les cultures les plus saines possibles.
Complètement. En fait, on produit des millions d'insectes. Je vais vous donner un ou deux chiffres.
Vous n'êtes pas que maraîcher, vous êtes producteur d'insectes.
On a une ferme qui s'appelle la ferme aux insectes Saveol Nature. On y produit un peu plus de 100 millions de la micro-guêpe. On produit également une punaise. Ces derniers temps, je fais beaucoup rire les gens parce que
c'est pas la
punaise de lit.
Mais
sachez que la punaise que nous utilisons dans les serres, elle est plutôt à la mode parce qu'elle est polyphage. Enfin, elle s'occupe de beaucoup de ravageurs, de prédateurs qu'on a comme ça qui pourraient venir détériorer les plantes. Et parallèlement à ça, je vous ai parlé de la pollinisation des fleurs qui se fait avec des bourdons, dont le bourdon commun, le bourdon terrestre. Et là, on y produit 17 à 18 000 ruches par an qui vont assurer la fécondation des fleurs sur les cultures de tomates, de poivrons, également de fraises.
Donc là, vous nous racontez tous les coulisses, finalement, de ce qui se passe sous les serres. C'est vrai. Là, on est rentré dans les coulisses. Maintenant, on lève le rideau. Les tomates sont cultivées sous serre, mais aussi les fraises, chez vous. Si je comprends bien, une serre, ça se chauffe avec les rayons du soleil.
Oui.
Sauf que pour pouvoir accélérer et répondre à la demande, il faut, j'imagine, que vous accentuez avec des sols chauffants ou des techniques de chauffage.
Je vais vous expliquer tout ça.
Oui,
si vous
et j'aime bien prendre un
parallèle. J'aime bien prendre un parallèle. Je vais prendre le parallèle de la véranda. Vous savez, les gens qui construisent des vérandas attenantes à leur maison, ils se disent « Oh, mais finalement, ça sera une pièce d'été et puis on ne va pas trop l'utiliser à d'autres moments de l'année. » Puis finalement, ça devient une pièce de printemps et puis une pièce d'hiver, voire une pièce aussi d'automne. Ils vont y adjoindre un peu de chauffage parce que les rayons du soleil ne sont pas toujours présents pour chauffer la véranda. Bien, finalement, une serre en verre, c'est comme ça qu'elle a été conçue dès son origine. C'est-à-dire qu'on a construit des serres pour protéger les plantes des aléas climatiques, de la pluie, du vent, des problèmes d'ensoleillement, parce qu'on peut protéger aussi de trop d'ensoleillement. Et finalement, aujourd'hui, la serre, c'est ça. C'est un environnement. extrêmement technologique, qui est pilotée, on va dire, avec des outils informatiques et qui permettent aujourd'hui de créer un climat, donc des conditions de température, d'humidité qui soient hyper favorables à la production de nos cultures sous serre.
Alors ça, c'est sous serre, mais sauf qu'entre-temps, depuis quelques années, il y a la crise de l'énergie avec l'augmentation des coûts des prix de l'énergie. Comment vous avez pu... ce fameux chauffage que vous je reprends l'image que vous venez d'utiliser, Pierre-Yves Gestin. Vous, j'imagine que vous devez chauffer un peu plus le sol. Comment vous avez fait ? Est-ce que vous avez trouvé d'autres alternatives pour chauffer les serres dans lesquelles sont cultivées les tomates et les fraises ?
Alors, en effet, on travaille sur ces alternatives depuis que les serres existent, finalement. On n'attend pas que les crises énergétiques arrivent, finalement, pour réfléchir à tous ces problèmes.
Donc, vous avez eu une réponse quand la crise est arrivée.
Donc, par exemple, dans le toit des serres, on installe, si vous voulez, c'est le principe d'un écran qui s'appelle un écran thermique. Donc, en dessous d'une certaine température extérieure, on a un voile qui vient totalement fermer la toiture de la serre. Donc, ça permet une économie d'énergie nette directe de quasiment 40%. D'accord ?
C'est extraordinaire.
Donc, quand les températures sont un petit peu plus fraîches à l'extérieur.
Après, je remets le contexte.
C'est ça. Après, je remaintiens un peu le contexte de notre région de production, qui est le Finistère, qui est une zone extrêmement tempérée. Nos températures hivernales sont entre 5 et 10 degrés. Cet hiver, plus proche de 10 que de 5. Donc, finalement, quand il faut avoir 15-16 degrés la nuit dans une serre, on n'a pas beaucoup de difficultés à avoir ces températures-là.
Merci le réchauffement climatique. Pardon,
D'une certaine manière. Par contre, il y a juste un petit moment de la journée qui est primordial, qui est le matin. Au moment où le jour se lève et que le soleil commence à faire son œuvre, il faut éviter le point de rosée. Vous savez, c'est la température où finalement les choses condensent. Ça peut arriver aussi dans des zones froides et humides, dans des maisons. Eh bien, on doit réchauffer légèrement l'atmosphère de la serre à ce moment-là, pour éviter justement que les plantes ne puissent avoir des maladies ou des attaques avec des champignons qui s'installent dans des conditions humides favorables.
Donc j'imagine, Pierre-Yves Gestin, que tout ça c'est connecté. Vous n'allez pas
vérifier. C'est ultra connecté. J'ai mon téléphone portable. Je peux vous dire quelle température.
Là, vous pouvez dire en ce moment.
Ah oui, si ça capte dans le studio, je peux vous dire quelle température et quel niveau d'insolation à Brest.
J'adore ça, Jérôme Giacomoni.
Moi, je trouve ça extraordinaire. Surtout que le vivant, c'est quand même très fragile. Donc il faut beaucoup de connaissances et beaucoup de patience et de professionnalisme pour pouvoir réussir à faire ça. C'est extraordinaire. Bravo.
Bravo. Donc, de l'énergie décarbonée, on peut le dire comme ça, pour cultiver les tomates et les fraises. Pourquoi seulement les tomates et les fraises ?
Alors, parce que ça correspond aussi à des cultures, finalement, qui se cultivent dans des abris.
Et c'est semblable au niveau de la culture ?
Alors, c'est assez semblable, mais avec une certaine différence. Je vous reprends encore une image pour que les choses soient assez simples. Quand vous plantez, quand vous semez des carottes et que vous allez arriver au moment de la récolte, quand vous les récoltez une fois. C'est fini, une fois qu'on a récolté les carottes, ça se termine. Pour des plants de tomates et des plants de fraises, la récolte, elle dure un certain temps. C'est-à-dire qu'on va mettre en place nos jeunes plants de tomates en fin d'année, fin novembre, début décembre, dans les serres. Ils ont été réalisés par des pépiniéristes. Et ensuite, la plante va pousser et 2 mois et demi plus tard, c'est-à-dire fin février, début mars, on va récolter les premiers fruits de ces plants. Et sur ces mêmes plants, qui vont être conservés tout au long de l'année dans la serre, on va récolter des tomates jusqu'au mois d'octobre. Pour la fraise, il en va à peu près de même. On plante les cultures de fraisiers en fin d'année dans les serres. On est en train de commencer à récolter.
Donc ça y est, elles vont arriver. Début avril.
On est prêts. Vous allez pouvoir vous régaler là, pour le week-end de Pâques. Et donc, c'est pareil. Et on va récolter ces fraises sur les mêmes plants jusqu'au mois de juillet. Vous voyez ? Contrairement à d'autres cultures qui, une fois récoltées, la culture se termine. On remet une autre culture à la suite.
Donc, on l'a compris ce soir sur Europe 1 avec vous, Pierre-Yves Gestin, président de Saveol. Tout ça, le but de tout ça, c'est de bien manger, de manger sainement, que tout soit fabriqué en France. C'est important pour vous ?
C'est important. Le bien manger, évidemment, c'est important. Et puis quand on est maraîcher, on travaille en conscience. Moi, ce que je vous raconte, c'est 40 ans d'histoire ou 50 ans d'histoire très résumé. Moi, j'ai connu l'agriculture de mes parents. C'est l'agriculture que je suis en train de pratiquer avec mes copains et mes collègues maraîchers, hommes et femmes d'ailleurs, parce qu'on a énormément de femmes aussi dans notre coopérative, que je salue. Et c'est l'agriculture de demain, de nos enfants, de nos petits-enfants, et qui est extrêmement moderne, mais qui a toujours pour ambition de bien nourrir et de nourrir de mieux en mieux, respectant la nature, évidemment. Et je pense qu'on le fait au quotidien, parce qu'inclure la nature, finalement, dans nos modes de production...
C'est ce que vous nous avez dit, incluez la nature dans le mode de production des tomates.
On est très à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux.
Et des fraises. Vos clients, c'est qui ? C'est la grande distribution ? C'est qui ?
Alors,
c'est nous, les consommateurs, mais dans nos rayons des supermarchés.
C'est le territoire français, c'est le territoire français, beaucoup dans le Grand Ouest et la région parisienne, mais également dans les autres régions françaises. Et oui, le premier réseau de distribution, on va dire, c'est celui de la grande distribution, mais on est aussi présent dans de nombreux mines, donc mines marchés internationaux, hein, de gros, notamment celui de Paris, d'ailleurs, qui a été à l'origine partenaire, on va dire, avec les maraîchers de Saveol et qui a permis aux maraîchers de Saveol, finalement, de se confronter à la planète du fruits et légumes dans son ensemble. C'est-à-dire qu'en allant aux mines de Rungis, on se rend compte aussi de la qualité des productions qui sont faites ailleurs en France. Et donc, on se dit, quand on revient de Rungis, on dit, on a intérêt de mieux travailler encore pour faire la différence.
Ça vous stimule.
Bien sûr.
Une petite compétition. Vous parlez de la grande distribution. Elles se sont bien passées, les négociations, cette année ?
Alors, en fait, il n'y a pas véritablement... Il n'y a pas de négociation dans le monde du fruits et légumes.
Ah, c'est pas comme avec les PME de biscuiterie ou d'autres ?
Parce qu'en fait, si vous voulez, sur le marché du fruits et légumes, de manière générale, on est face à une saisonnalité. Il y a un début de saison, il y a une saison de pleine production, et puis il y a une fin de saison. Et finalement, quand on se trouve face à des consommateurs aussi et une météorologie qui est impactante, qui influence finalement sur la volonté ou pas de consommer, d'ailleurs, des consommateurs... Eh bien, il y a une adéquation, il y a une juste adéquation à trouver à tout ça. Ce qui fait que tous les jours, les commerciaux de notre coopérative sont en discussion tous les jours avec les gens de la grande distribution pour fixer le prix en fonction de nos offres.
Donc c'est en temps réel quasiment.
C'est en temps en heure tous les jours. Et les prix changent d'un jour à l'autre.
Ça n'a rien à voir avec les âpres discussions que nous avons pu entendre de part et d'autre avec des PME autour des pâtes, des biscuits, des...
Parce qu'il y a, si vous voulez, dans l'industrie agroalimentaire, mais en général, ce sont plutôt quand même des lignes de production qui produisent un certain nombre d'unités par jour. Quand vous avez une serre avec le fait d'être tributaire, et c'est Dieu merci, de la météorologie, eh bien, d'une semaine à l'autre, il peut y avoir des hausses ou des baisses de production.
Donc là, en ce moment, par exemple, c'est quoi les échanges avec la grande distribution ?
C'est plutôt de mettre en place, si vous voulez, la production française. Tout à l'heure, vous parliez de la production française, elle est importante. Pendant les mois d'hiver, les gens consomment de la tomate étrangère pendant tout l'hiver sans s'en rendre compte parce que...
C'est indiqué quand même.
Un petit peu. L'origine est normalement indiquée, mais pas toujours.
Ouais.
Et puis là, maintenant, c'est la production française qui est en train de prendre la place. Et normalement, à partir du mois d'avril, la production française est suffisante pour alimenter l'ensemble des besoins.
Donc, ce que vous nous dites ce soir, Pierre-Yves Gestin, c'est que, à l'heure où on parle, la production française de tomates est suffisante pour couvrir tous les besoins dans la grande distribution.
D'ici quelques jours, oui.
Donc, en vrai, on pourrait ne plus avoir de tomates d'ailleurs.
Normalement, oui.
Ah ben c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle, non ?
C'est important. C'est important que ça soit su, surtout.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1. Vous écoutez La France bouge, l'émission des entrepreneurs, des belles entreprises françaises, des solutions. Et ce soir, une entreprise bretonne, terre de tradition, d'innovation, où naquit une coopérative dédiée à la culture de fruits et légumes. Son nom, c'est Saveol. Et depuis sa création, elle est devenue le spécialiste incontesté de la tomate et des fraises. On en parle avec le président de Saveol, de cette coopérative, avec vous, Pierre-Yves Gestin. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous le confirmez, nous sommes capables de couvrir tous les besoins en matière de tomates françaises. C'est-à-dire que si on comprend bien, on pourrait avoir dans tous les rayons des supermarchés 100% de tomates françaises.
Oui, la production,
c'est possible.
Oui, la production française est capable de fournir les étals françaises au fur et à mesure de la saison parce qu'il y a les différents bassins de production. Donc nous sommes basés en Bretagne, mais on sait très bien qu'il y a aussi énormément de production dans le sud de la France et qui est en train de démarrer. Donc finalement, la saison de la consommation de la tomate, elle est complètement en adéquation avec la courbe du soleil et de l'allongement des jours finalement où il y a des consommateurs qui veulent avoir de la tomate 12 mois sur 12. Ils achètent dans ce cas en hiver de la tomate qui vient des pays étrangers.
Mais là, en ce moment, non,
on peut avoir de la tomate française qui répond aux besoins des consommateurs.
Mais ça veut dire qu'on n'aura pas, dans les prochaines semaines, de la tomate qui vient d'ailleurs ou on en aura quand même ?
Ah si, il y en aura toujours.
Et pourquoi ?
Il y en aura toujours. Alors, il y a le souci du prix sur les marchés, évidemment.
Alors, c'est-à-dire, ça veut dire que nous, notre tomate, elle est plus chère ?
Oui, notre tomate, elle est plus chère. D'abord, elle coûte plus cher à produire.
Mais comment ça se fait ? Elle fait moins de kilomètres que celle qui vient d'Espagne.
Alors, si vous voulez, il n'y a pas que les kilomètres qui rentrent en ligne de compte, évidemment, sur le coût de production d'un kilo de tomate. Parce que tout à l'heure, on expliquait ça, c'est qu'il y a pratiquement 3000 personnes qui travaillent au sein de la coopérative Saveol, entre les serres, la coopérative, enfin bref, tous les services de la coopérative. Et plus on va vers le sud, déjà, si on regarde le prix du coût de la main-d'œuvre en Espagne, qui est de l'ordre de 7,50€, 8€ de l'heure, le SMIC français approche quasiment des 12€ sans les charges. Donc on est déjà avec un coût de production qui est supérieure à nos voisins européens, espagnols, mais on est encore plus confronté à la tomate venant du Maroc et qui, là, est produite, évidemment, dans les conditions optimales, probablement,
en
du
sud.
Avec, en termes de météo, ça, des soucis avec des approvisionnements en eau. On entend quand même aussi le dérèglement climatique qui fait que les températures sont extrêmes, mais il y a aussi des problèmes d'eau. Mais par contre, avec un coût de main-d'œuvre qui est extrêmement bas, de l'ordre de 1 euro de l'heure. Ah,
bah,
donc, quand
on
vous comparez une heure chargée à 15 euros en France et une heure chargée à 1 euro au Maroc, vous savez, ce n'est pas la différence du prix du transport qui permet de...
C'est une histoire de main-d'œuvre. Mais vous allez plus loin, parce qu'au Maroc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, vous avez, chez Saveol, des élevages de bourdons qui permettent de polliniser donc, ces plantes cultivées dans vos serres, mais aussi donc, des insectes pour protéger les cultures, et puis pour protéger les des moucherons, ouais, des acariens, etc. Tout cela nous amène à cette consommation des fruits et des légumes, hein, qui sont hyper importants pour nous en France. Clara Léger, je me tourne vers vous. Quelle est notre consommation à nous, Français, de fruits et légumes en France ?
Alors, selon Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais. La consommation de fruits et légumes frais représente 1,3% des dépenses totales d'un ménage. Seulement 12% des Français consomment les 5 fruits et légumes par jour, les fameux recommandés.
Enfin.
En revanche, on est 79% à considérer quand même que c'est important et on est aussi 79% à vouloir consommer davantage.
On le fait pas.
Voilà.
C'est ça, en fait,
fruits et légumes. Exactement.
Et quels sont les fruits et légumes les plus produits en France ? Je rebondis sur ce que nous disait Pierre-Yves Gestin.
Alors, du côté des fruits, ce sont les pommes, les prunes et les pêches et nectarines. Et du côté des légumes, les oignons, les tomates et les carottes.
Les tomates. Il n'y a pas les fraises.
Il n'y a pas les fraises.
Pourtant, Saveol est à la pointe pour les fraises. Manger local, c'est hyper important. C'est ce qu'a constaté aussi Antoine Fenech, est allé recueillir des paroles de Français au micro Europe 1 de la France Bouge. Écoutez.
J'essaie autant que possible d'acheter local. Bon, c'est évidemment un peu plus cher, mais je préfère acheter moins, oui, et j'achète local. J'aime les fraises cariguettes, le melon charentais ou de Cavaillon.
Oui, bien sûr, je consomme. Alors, j'aime bien consommer des fruits et des légumes de saison, ce qui est produit pas très loin de chez moi. Il y a de plus en plus de commerces de proximité dans les villes qui proposent justement ça en circuit court. Acheter des fraises en plein hiver, c'est pas mes objectifs, par exemple.
Pour être honnête, je ne suis pas trop tout ce qui est légumes et fruits de saison. On va dire que je prends ce qu'il y a au supermarché, ce que j'aime. Par exemple, je suis une grande fan de litchi. Je ne suis pas en train de vérifier l'origine de chaque produit que je consomme.
Alors moi, j'essaye d'aller le plus souvent chez un primeur dans mon quartier où vraiment tous les fruits et légumes sont cultivés et récoltés en région parisienne. C'est important pour moi de manger local parce que ça me donne bonne conscience. Je me dis que voilà, il n'y a pas d'émission carbone sur mon alimentation.
J'essaie d'acheter des fruits de saison. Alors, on essaie d'acheter plutôt des tomates en été, des fraises en été, etc. Des choses comme ça. On essaie d'acheter des fruits des légumes qui soient origine France, même si parfois c'est un peu compliqué.
Voilà, parfois c'est un peu compliqué, mais parce que c'est pas toujours indiqué. Et parce que c'est vrai que les prix se varient d'un état à l'autre. Hein. Donc évidemment, c'est le porte-monnaie à la fin qui tranche, non, Pierre-Yves Gestin ?
Ah oui, je pense que le porte-monnaie, évidemment, qui tranche. Et puis finalement, c'est le dernier maillon de la chaîne de distribution qui fixe également le prix. C'est-à-dire que nous, on connaît les prix auxquels on vend notre production à la sortie de la coopérative. Et après, c'est les réseaux de distribution qui choisissent le prix de vente.
Mais quand vos commerciaux là, discutent toute la journée, là, tous les jours avec la grande distribution, il sait quand même de combien sera sa marge et surtout de la marge du distributeur. Il a une idée.
Il a une idée, mais ce n'est pas lui qui la décide, encore une fois.
Donc ça bloque encore un peu.
Et donc, juste peut-être de dire que notre rôle, finalement, évidemment, c'est de commercialiser notre production. Et c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que quand on a justement un marché qui s'engorge parce que la consommation n'est pas forcément au rendez-vous, c'est là où justement on fait des mises en avant. Des mises en avant, donc c'est mettre des produits plutôt en tête de gondole, avec des prix qui soient plus attractifs pour que le consommateur, bah, finalement, il en achète plus à un prix qui soit plus abordable.
Ça nous prend beaucoup de temps quand on fait ses courses maintenant,
oui,
pour justement essayer d'avoir le prix le moins cher. On va poursuivre sur cet univers des fruits et légumes avec la start-up de ce soir. C'est Tomogrow.
Europe 1.
Le talent de la France bouge.
Le talent de ce soir, c'est vous, Jérémy Delbar. Vous êtes le cofondateur de Tomogrow. Vous avez 30 ans, vous êtes ingénieur.
C'est ça.
Hein, tout a démarré, vous, pendant le confinement, cette idée d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pendant le confinement, j'avais un autre projet d'entreprise qui est tombé à l'eau.
Pour entreprendre.
Mmh. On devait lancer une campagne de crowdfunding avec un ami restaurateur. Et cet ami restaurateur a fermé. le jour du lancement du crowdfunding. Parce que,
pour pouvoir récupérer des fonds pour ouvrir un restaurant ?
Non, c'était un projet qui était en lien avec la restauration, mais qui, en fait, notre ambassadeur de crowdfunding était cet ami restaurateur.
D'accord, ok.
Et on devait lancer la campagne le 17 mars 2020, donc le jour du confinement. Donc, tout tombe à l'eau et mon ami restaurateur me dit « je vais pas pouvoir tourner et en plus je dois jeter tous mes produits frais puisque mon frigo me coûte très cher et donc je ne sais pas comment les conserver. »
Donc là, il se passe quoi dans votre tête ?
Bah, il se passe qu'avec ma collègue Camille, qui est ingénieure agronome et moi qui suis ingénieur hardware, on s'est dit « bah c'est quand même dommage aujourd'hui de ne pas pouvoir mieux conserver, donc on ne construirait pas quelque chose qui permet de le faire. » Et donc on a quand même construit une première micro-ferme qui a permis aux consommateurs de venir cueillir la menthe dans le rayon, dans le restaurant et où les gens ont pu, à la réouverture, avoir des produits de menthe ultra fraîches.
Donc pendant le confinement, vous avez créé ces micro-fermes, vous avez eu l'idée ?
On a eu l'idée, c'était la première version, la première itération qui n'était pas forcément très jolie, mais qui avait le mérite de fonctionner.
Alors justement, on va rentrer dans le détail. Vous allez pitcher Tomogrow, T-O-M-O-G-R-O-W. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre. Vous êtes prêts ?
C'est parti.
Allez, c'est à vous.
Je vais commencer par un chiffre. C'est quand même 70% des aromates qui sont souvent gaspillés en rayon à cause de deux facteurs, le transport et le stockage. Tomogrow, c'est vraiment le premier service de micro-ferme verticale implanté directement en rayon. Imaginez-vous pouvoir cueillir vos produits frais directement dans votre magasin tout en réduisant le gaspillage alimentaire. C'est le principe de base. Avec Tomogrow, c'est désormais possible grâce à nos micro-fermes intelligentes installées directement en rayon. J'insiste vraiment sur l'idée de « en rayon ». C'est-à-dire difficile à mettre en place ? Bah non, pas du tout, parce que nos micro-fermes sont intelligentes et s'installent en 2 heures maximum. Il suffit juste d'une prise électrique et c'est parti, les plantes poussent dans votre rayon. Par contre, on doit venir approvisionner ces micro-fermes et donc nos micro-fermes sont approvisionnées en jeunes pousses par nos fermes de germination qui sont franchisées, qui sont situées à moins de 10 km de chaque point de vente. Notre objectif à long terme, c'est vraiment de créer un réseau qui est suffisamment dense et efficace pour pouvoir approvisionner toutes les micro-fermes avec un réseau qui soit local et national qui nous permettra de faire vraiment du local à l'échelle, à l'échelle nationale en réduisant le gaspillage alimentaire. Alors je vais vous finir ce truc en vous disant simplement que rendez-vous en magasin pour cueillir vos produits frais.
Merci pour votre pitch, Jérémy Delbarque, cofondateur de Tomogrow. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour là sur les réseaux pour voir à quoi ça ressemble. Moi, je trouve que ça ressemble à un aquarium géant, hein, on peut dire comme ça. Il y a des belles lumières, c'est fait exprès, ces lumières un peu tamisées.
Alors, c'est des lumières qui sont conçues pour pouvoir nourrir la plante en photosynthèse et permettre la croissance des plants sans venir faire de la floraison qui viendrait gâcher le goût de l'herbe aromatique.
Donc, dedans, des aromates comme... Y a quoi ?
Du basilic, de la ciboulette, de la coriandre, du basilic thaï, du basilic
pour. C'est vrai que c'est hyper compliqué à conserver ça. Moi, j'ai une technique, mais il faut à chaque fois y penser. Je les mets sur un sopalin, j'essaye de ne pas les écraser, il ne faut pas les mettre dans du papier alu. Mais c'est vrai, une fois qu'on les achète, ça dure 24 heures.
Exactement. Alors nous, l'avantage avec notre solution, c'est quand vous venez cueillir votre plant, en fait, vous prenez un plant qui a encore sa racine, qui est encore vivant. Donc chez vous, vous le mettez les pieds dans l'eau, il va rester frais une quinzaine de jours.
On le met où ? Dans la cuisine ?
Dans la cuisine, sur le rebord de fenêtre.
Pierre-Yves Gestin, vous êtes le président de Saveol. Quel regard portez-vous sur Tomogrow ? Vous connaissiez ?
Oui, je connaissais. Moi, je trouve ça génial, en fait.
C'est bien,
je trouve ça génial parce que finalement, c'est des micro-fermes. Hein. Je ne pense pas que ce soit péjoratif de le dire.
Et qui
explique finalement aux consommateurs c'est quoi le monde du vivant, quoi. Tout simplement.
Et c'est au cœur du supermarché, c'est pour ça. Ouais. Nous, on vous encourage à la France Bouge quand même à aller dans les supermarchés. On ne fait pas tout sur Internet. Non, c'est vrai. Allez-y, parce que c'est là où vous arrivez, vous faites vos courses et vous rencontrez cette micro-ferme. Elle est installée dans combien de supermarchés ?
Alors aujourd'hui, on est encore jeune, hein, on est une petite entreprise, on est installé en 5 supermarchés.
Mais c'est bien, depuis 2021 vous existez. Hein.
Octobre 2021, création d'entreprise, première exploitation commerciale à la micro-ferme en juin 2022.
Ah ouais, donc c'est très jeune. Donc combien vous avez dit ?
5.
5, ils sont où ?
Alors, on est dans le nord de la France, on est du côté de Villeneuve-d'Ascq, Bailleul, entre Dunkerque et Lille, après dans la région, surtout métropole lilloise.
Mmh. Jérôme Chacomoni, vous êtes le coach de ce soir. Quel regard portez-vous en son pitch ? Il était bien.
Très bon pitch, complètement d'accord avec vous Elisabeth. C'est vrai que les fines herbes, elles sont bonnes quand on les cueille dans le potager. Ouais, mmh. Après, elles perdent très vite leur goût.
Tout de suite, même la menthe.
Ça, très vite, ça c'est vrai. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est très compliqué ce qu'il fait. Parce que finalement, c'est vrai...
C'est l'ingénieur qui parle aussi.
Oui, en fait, d'élever du vivant comme ça, avec un contact avec du grand public en permanence, et de faire un produit qui est toujours de la bonne qualité au bon niveau, c'est vraiment un art. Donc bravo pour
c'est
avoir
vrai
réussi
de souligner,
à faire ça.
C'est important de le souligner, Clara. Bah, moi, je me dis que, enfin, oui, c'est vrai. Quand on achète moi, je mange beaucoup de ciboulette. La ciboulette, on l'ouvre après, enfin, ça devient vite. Alors que là, au moins, et puis ça responsabilise aussi dans sa consommation, pour le coup, de savoir que ça vit.
Oui,
ça
parce qu'il y a la racine.
Plante, vous avez dit, faut la mettre dans l'eau.
On l'achète avec la racine.
En fait, quand vous prenez le plant en magasin, vous prenez le plant avec sa racine. Vous prenez un plant qui est encore vivant, parce qu'une plante aromatique, vous savez que vous allez couper dans les 13 heures, les molécules organoleptiques, donc la saveur, disparaît de moitié.
Mais pourquoi nous l'avons comme ça alors?
Parce que c'est plus facile.
C'est plus facile à vendre. Non, mais c'est vrai, on ne la vend que comme ça, par commodité.
C'est la commodité.
Donc, aujourd'hui, 5 points de vente dans le nord de la France. Est-ce que c'est quoi? Vous vous vendez au supermarché? Ça veut dire que c'est quoi? C'est un abonnement? Vous vendez, vous louez? Vous faites comment?
Exactement. Nous, on a vraiment voulu...
Votre modèle économique.
On a voulu vraiment se différencier de ce qui se faisait en vertical farming habituel, en se disant, nous, ce qu'on fait, c'est un service. On offre un service de fraîcheur à la grande distribution. Donc, un magasin qui travaille avec nous paye un abonnement mensuel qui va lui permettre de voir sa consommation et son prix sur les aromates sur toute l'année. Et en échange, nous, on s'occupe de tout. On remonte la donnée, on vient réapprovisionner et on a une ferme toujours pleine et pleine de saveurs toute l'année pour que le magasin n'ait rien à gérer.
Ça donne envie. Donc, c'est un service dans ces magasins qui souscrivent au service de
Tout Mon Gros.
Et à ce moment-là, vous êtes, donc là, aujourd'hui, vous avez 5 clients, 5 points de vente.
On a 5 points de vente. Aujourd'hui,
vous n'avez pas levé de fonds.
On n'a pas encore levé de fonds. Et on a tout développé en interne. Je tiens à le dire quand même, toute la technicité.
Alors cette technologie, c'est vous qui l'avez inventée avec votre associé?
Exactement. On a déposé des brevets. On a tout développé en interne. C'est-à-dire qu'on est dépendant d'aucune technologie extérieure. Et on construit aussi nos micro-fermes dans notre usine à Lille. À l'homme, exactement.
C'est beau. Ça aussi, c'est beau. Hein,
ah non, mais c'est, souvent, on se dit...
On s'en rend pas compte. Hein.
Mais c'est ça, on se dit souvent, on a une idée, ça va être facile et tout. Ce qui est très difficile, c'est d'industrialiser. C'est le plus dur.
Oui.
C'est de faire en sorte
c'est pas
que...
C'est pas que l'idée.
Non. Le plus dur, en fait, c'est l'industrialisation. C'est le fait de le rendre concret, de le donner à un client final et de faire en sorte que ça fonctionne 24 heures sur 24, toute l'année.
Eh bien ça on va rentrer encore plus dans le détail parce que vous avez des besoins, c'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir, Jérémy Delbar pour Tout Mon Gros. Le premier objectif, votre première envie, c'est quoi? Comment pouvons-nous vous aider? C'est quoi?
Alors notre premier objectif, c'est de déployer encore plus de micro-fermes. Aujourd'hui, on a de la commande, mais on voudra en déployer encore plus. Donc
et vous avez les capacités, les moyens de déployer? Je rebondis sur l'industrialisation dont parlait Jérôme.
On a les moyens de déployer. Ensuite, avec la levée de fonds qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, on cherche 2,1 millions d'euros qui nous permettront justement d'alimenter toute la France et de ne plus être cantonné à la région Hauts-de-France. Et qu'on cherche des investisseurs qui auront suffisamment d'audace et d'envie de participer à cette filière, parce que c'est vraiment une filière qu'on monte. Hein.
Ça pourrait aller au-delà des aromates?
Ça pourrait aller au-delà. Après, notre vision, elle est aussi de ne pas concurrencer la production locale. On ne travaille que sur des produits qui viennent d'importation, qui sont très fragiles.
Par exemple le basilic thaï, par exemple.
Voilà, exactement, le basilic thaï, ou des variétés de salades qu'on ne trouve pas forcément en France. On n'a aucun intérêt à faire de la batavia. Notre objectif, c'est vraiment de venir en complément.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 21h et oui, elle bouge cette France, elle suscite des vocations aussi dans un domaine pas toujours attractif. Pourquoi? Parce que ce soir, on parle de coopératives agricoles, on parle de maraîchers, on parle d'agriculteurs avec Pierre-Yves Gestin, le président de Saveol. Saveol, c'est une coopérative avec 125 maraîchers environ, c'est ça?
C'est ça.
Et vous, ce sont les fraises et les tomates. Vous savez, les tomates cœur de pigeon, si vous nous rejoignez là maintenant sur Europe 1, eh bien c'est la marque Saveol qui est derrière tout cela. C'est une entreprise qui protège les cultures, tout est fait à la main. C'est une entreprise qui crée des emplois et qui suscite aussi des vocations. Comment on fait pour recruter aujourd'hui quand on dirige une coopérative comme Saveol?
Alors pour recruter, on communique. Et merci de nous avoir invités ce soir pour venir témoigner sur ce plateau. Moi, je suis ravi d'être ici parmi vous et d'avoir ce temps de parole et la possibilité de donner des explications sur notre métier. On fait un magnifique métier, le métier de la production, c'est très beau. On a la chance de continuer à attirer des jeunes. On a la chance de continuer à installer un jeune pour un départ en retraite. Ça veut dire comme le modèle... Il est attractif.
Un jeune pour un départ en retraite.
Ouais, parce que on les accompagne, nos jeunes. C'est-à-dire que aujourd'hui, reprendre une entreprise, créer une entreprise, on sait que c'est difficile, mais on met en place des systèmes de parrainage et tout simplement, c'est quelqu'un qui connaît le métier, bah, il va prendre de son temps, il va coacher. Hein, j'ai un coach ici à ma gauche. Eh bien, c'est ça le principe, c'est transmettre son savoir. Et finalement, on est tous passeurs de quelque chose sur ce.
Et comment vous les attirez ? Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, moi j'ai envie de travailler, d'être maraîcher ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Eh ben là, j'ai un dernier exemple en date sur notre exploitation que je dirige avec mon épouse, Laurence. Il y a un jeune qui est venu nous voir il y a 3 semaines dans l'idée de pouvoir s'installer. Il a vraiment envie de rejoindre la coopérative Savéole. Il veut devenir producteur de fraises. Il attend à ce qu'il y ait des exploitants qui partent à la retraite. Et je lui ai fait la proposition de nous rejoindre et venir travailler sur l'entreprise avec nous. Et
pour
il collabore à nos côtés depuis maintenant presque 3 semaines.
Mais je trouve ça génial. Ça donne envie, hein, Clara.
Ouais, non, c'est clair. Formidable. Tout est beau.
C'est tout est internalisé, tout est en France. Enfin, franchement, ça, je trouve qu'il coche toutes les cases. Vous ne trouvez pas, Jérôme Giacomoni ?
Ah bah moi, oui, j'adore entendre tout ça. Je trouve ça génial.
C'est extraordinaire. Vous parliez des jeunes, justement. On est avec un jeune ce soir. C'est la start-up sur Europe 1 de La France Bouge de ce soir. C'est Jérémy Delbar, le cofondateur de Tomogro. Tomogro, ce sont des micro-fermes, on peut les appeler comme ça.
Exactement.
Où vous cultivez des aromates qui sont souvent importés. Vous nous permettez de les cultiver pour qu'ils durent plus longtemps, s'installer dans les supermarchés. Aujourd'hui, seulement dans 5 supermarchés dans le nord de la France. Et si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous souhaitez vous développer, vous souhaitez avoir davantage de clients, donc davantage de supermarchés. Et pour cela, évidemment, il y a un coach dans La France Bouge. Et on va voir ce que va vous conseiller Jérôme Giacomoni, le cofondateur du groupe Aérophile.
Europe 1.
Le réseau La France Bouge.
Jérôme, quel conseil pourriez-vous donner pour répondre donc aux besoins ? Comment peut-il se développer, Jérémy, avec Tomogro ?
Alors, à mon avis, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'être sûr de son business model, c'est-à-dire de voir que sur chaque supermarché, il y a une rentabilité, d'estimer cette rentabilité. Et la deuxième, c'est de bien présenter son projet. Pour moi, Jérémy coche toutes les cases de la green tech. Parce que je suis sûr que tu as dû faire ton bilan carbone sur chaque feuille de menthe que tu vends, tu sais que finalement ton bilan carbone est meilleur et que finalement c'est une très bonne solution pour l'avenir. Au lieu de déplacer, au lieu d'avoir, comme tu le disais, 70% de déchets dans les plantes. Donc moi je pense que une fois que tu as bien établi ton business model, que tu as fait ton marché en disant bah, si ça marche dans tel supermarché, ça va marcher dans celui-là et celui-là, le marché global s'étend. Et après il faut aller voir les fonds des green tech. Il faut que tu ailles voir BPI. Il faut que tu ailles voir Nord Entreprendre. Moi, j'ai été lauréat de Nord Entreprendre il y a 30 ans. C'est une magnifique association qui aide les entrepreneurs du Nord. Et donc là aussi, je pense qu'il faut que tu ailles les voir.
On a été lauréat du réseau Nord Entreprendre en décembre 2023.
Ah bah voilà, vous êtes sur la bonne voie.
C'est la bonne voie. Faire aider, d'abord Business Angel, puis après Business Model avec BPI, et puis ensuite les fonds avec un déploiement. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour industrialiser et développer ton business.
Et Jérôme, pensez-vous que dans son business model, moi, c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'est seulement les supermarchés ?
Non, moi je me suis... Enfin, quand j'ai vu
ton
projet...
Non mais c'est vrai, on pense qu'au supermarché, mais on peut en acheter ailleurs des aromates.
Voilà, les écoles, les restaurants.
Aujourd'hui, on est sollicité aussi par des restaurants, par des écoles. Alors, les écoles, je vais être honnête, on ne s'y attendait pas du tout.
Si, c'est génial, c'est super pour
les enfants,
écoles.
Pour l'éducation.
Exactement, c'est une remarque qu'on nous avait faite.
Moi,
donc,
si j'avais su ça, je n'aurais pas appris ce soir qu'il fallait avoir les racines pour que ce soit mieux.
Les EHPAD, enfin, tu vois, je pense que tout le monde serait heureux.
Oui, les cantines d'entreprise.
Les cantines d'entreprise, tous les endroits où les gens se réunissent et tu choisis tes herbes en fonction de tes plats. Moi, je trouve qu'il y a un grand marché pour toi. Tu as tout à faire.
Et dans le développement du goût aussi.
Le développement du goût. Pour moi, ça coche beaucoup de cases pour faire un beau business model.
D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, Jérôme Giacomoni. Quand je parle de développement du goût, il y a peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez un compte Instagram très fourni, vous avez beaucoup de followers.
Alors aujourd'hui, on va arriver à peu près 1000 followers.
1000, bon, ça avance, hein, c'est compliqué de les attraper. Mais peut-être que vous pourriez justement aller vers ces sujets-là, de l'apprentissage du goût, d'où viennent ces aromates, comment on les cultive. Et quand il y a du contenu comme ça, quand on sait pourquoi on va le faire, ça peut...
C'est une piste qu'on explore en ce moment. Donc nous, on fait beaucoup d'A/B testing sur nos réseaux pour justement orienter les consommateurs sur l'utilisation de cet aromate. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « C'est bien, je l'ai cueilli, mais j'en fais quoi ?» Et ben nous, avec notre responsable com, Maxence, il travaille beaucoup les recettes et il explique aux gens qu'en fait, on peut remplacer sa mayonnaise par une sauce à base de basilic ou on peut remplacer les sauces industrielles par des sauces à base d'aromatiques.
C'est un peu ce que disait Jérôme. Oh, il pourrait s'installer dans l'un de vos parcs d'attractions ? Parce que Jérôme a des parcs d'attractions, Jérôme Giacomoni.
Ah, c'est vrai ? Tu pourrais venir au Ballon Généralité de Paris juste à côté. Tu pourrais venir au parc d'attractions, au parc du Petit Prince en Alsace. Mmh. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, on reçoit beaucoup de gens, soit des milliers de personnes qui viennent déjeuner dans nos restaurants. Donc c'est vrai qu'on imagine, tiens, je prends un petit peu de ciboulette.
Ouais, mais j'en rajoute. Voilà. On prend une omelette, on rajoute de la ciboulette. Ça change tout le goût de la ciboulette et au moins on a appris quelque chose en
avec allant. Avec plaisir.
Pourquoi pas. Je vous laisse en discuter. On vous reste évidemment autour de la table de la France Bouche, parce que la France Bouche, c'est une grande famille comme la grande famille Europe 1. Et on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté.
La France Bouche. Que sont-ils devenus ?
Clara Léger. Alors, on va prendre des nouvelles de Paul Malfoy, c'est le cofondateur de Prothème. Prothème, c'est une start-up qui développe des enrobages écologiques qui prolongent en fait la durée de vie de certains fruits et de certains légumes pour les empêcher de développer des maladies comme la moisissure ou la pourriture. Paul était venu dans la France Bouge en septembre 2022. Il est actuellement en train de développer sa technologie, mais à plus grande échelle.
Ah, c'est vrai, Paul. Bonsoir, Paul Malfoy.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Ça va très bien. Depuis tout ce temps, ça va très bien, merci.
Bah, on est content de vous entendre. Donc, depuis tout ce temps, comme vous dites, vous étiez venu il y a un peu plus de 2 ans, je rappelle. Donc, c'est une fine pellicule qui enrobe les aliments, comme par exemple, c'est quoi ? C'est des fruits, des légumes ?
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est surtout des fruits. On travaille principalement sur les agrumes et les bananes.
Ouais, c'est vrai que les bananes, quand ça pourrit, ça pourrit. Donc, vous avez créé cette fine pellicule. Vous en êtes où dans le développement de votre entreprise ?
Alors, depuis nos derniers échanges, il s'est passé pas mal de choses pour Prothème. Je rebondis avec les invités que vous avez aujourd'hui sur le plateau. On a été notamment lauréat d'un concours d'Intercell avec Tumogro, justement. Donc, on se connaît.
Bonsoir,
coucou, Jérémy.
Vous connaissez ?
Oui.
On se connaît très bien, c'est un petit monde au final, exactement. Non, plus généralement, pour Prothème, il s'est passé beaucoup de choses. On a déjà pas mal recruté. Donc l'équipe s'est agrandie, on est aujourd'hui 8 personnes chez Prothème et on continue à recruter pour encore un petit peu plus augmenter la taille de l'équipe.
Et pour les vous recrutez quoi comme profil ? Parce que le procédé, vous l'avez, cette fine pellicule, vous n'avez pas évolué dessus, c'est la même.
On a toujours à évoluer et à rendre un petit peu plus efficace ce qu'on a déjà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est beaucoup concentré sur des équipes de recherche, donc des profils assez scientifiques. Et là, on commence à envisager des recrutements un peu plus commerciaux et généralistes.
D'accord. Voilà. Vous avez commencé à monter à l'échelle tous vos procédés de fabrication pour pouvoir produire, je rebondis sur ce que disait Jérôme, à plus grande échelle, pour pouvoir industrialiser votre solution.
Exactement. Alors, on est au tout début de cette montée en échelle parce qu'on est quand même sur des temps longs avec notre technologie. On a aussi des enjeux réglementaires qui apportent beaucoup d'inertie à ce type de technologie. Mais plus généralement, on a aussi quitté nos différentes structures d'accompagnement, incubateurs, accélérateurs, pour rejoindre nos propres locaux. Et ça a fait suite justement à une première levée de fonds qu'on a réalisée au cours de l'année dernière. Et qui précède une nouvelle qu'on anticipe pour cet été.
Formidable, bravo. Cette fine pellicule sur laquelle on protège nos fruits et légumes, notamment les bananes, on la trouve où ? Vous la vendez à qui ? C'est qui vos clients ?
Alors aujourd'hui, désolé de vous décevoir, mais aujourd'hui on ne la commercialise pas encore, notamment parce que des enjeux réglementaires en Europe sont assez contraignants. Ils nous protègent bien sûr et c'est une bonne chose, mais c'est aussi assez long de pouvoir rentrer sur le marché. Mais voilà, aujourd'hui sachez que principalement il y a des industriels et des professionnels du secteur qui testent notre technologie et on envisage de lancer ça à plus grande échelle dans le courant de l'année prochaine.
C'est même pas encore en vente, c'est incroyable, c'est très très long. Mais en tout cas, ça prend une excellente voie et on était très contents de vous avoir parmi nous ce soir, de vous passer un petit coup de fil, Paul Malfoy. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Prothème. Ça vous inspire, Prothème ? Vous connaissiez ?
Non, je ne connaissais pas. Non, j'ai déjà entendu parler de ce genre de travaux et de projets. Et pas
c'est
forcément
bien,
non plus surpris. C'est bien, c'est très bien, mais pas surpris que le temps réglementaire, finalement, soit hyper contraignant pour les gens concernés.
Ouais. Les fraises, on les conserve comment le plus long? Est-ce que d'abord, on les met au réfrigérateur ou on les laisse dehors?
On ne met pas les fraises au réfrigérateur.
Non, mais j'en sais
rien, ce qu'il faut faire, ce qu'il est préférable de faire, parce qu'elles ont quand même. Elles se conservent mieux dans des températures de 8-9 degrés à peu près, mais pas à 4 degrés dans le frigo, c'est jamais très bon. Et si vous devez les mettre dans le frigo, sortez-les 2-3 heures avant de les consommer pour que les arômes puissent vraiment donner.
Et on les laisse dans la barquette
maximum.
Ou on les laisse à l'air libre?
On les laisse dans la barquette, il faut
d'accord.
les laisser tranquilles.
Et les tomates cœur de pigeon alors?
Alors les tomates cœur de pigeon se conservent plus longtemps, mais jamais au frigo. Par contre, on ne met jamais.
Oui, sinon, ça perd le goût,
jamais,
hein.
jamais. Toutes les tomates n'ont pas à aller au frigo.
Voilà.
Température ambiante, à l'abri de la lumière, tout simplement.
Merci à tous, hein, c'est ça la France bouge, on apprend des choses et on fait avancer la société et on voit tous ces parcours de créateurs d'entreprises, des dirigeants et on ne peut rien entreprendre sans une pointe de témérité et un petit brin de folie, c'est ça la France bouge. Bonne chance et merci Jérémy Delbar, cofondateur de Tomogro, merci à vous.
Merci
Pierre-Yves Gestin, président de Saveol, merci d'être venu ce soir dans la France bouge, merci à notre super coach de ce soir, Jérôme Giacomoni, cofondateur du groupe Aérophile. Clara Léger, on se retrouve demain.
Oui, à demain.
Europe 1.
La France bouge. 20h, 21h. Elisabeth Assayag.